la philosophie par le père Philippe Arimon, le 19 décembre 1992, 5e cours. Vertu
elle-même qui se définit pour nous. Faut pas l'oublier. Concile de Trente montre que c'est une vertu théologale. Reçue dans l'intelligence. Grâce à une motion d'amour de l'Esprit Saint. Il y a avant le point de départ de la foi. Le Concile d'Orange définit cela. C'est la pia affectio. C'est-à-dire, c'est une motion d'amour de l'Esprit Saint, donc surnaturel, qui incline l'intelligence, qui pousse l'intelligence à recevoir. Un enseignement divin à recevoir la parole de Dieu sans avoir l'évidence de ce qui est signifié par cette parole. Et Vatican I définira la foi comme non pas un sentiment, comme c'était un tout petit peu la tentation de ce moment-là, mais comme une adhésion de l'intelligence. Vous voyez, donc l'Église progressivement a pris conscience dans les différents conciles de ce qu'était la foi. Concile d'Orange, Concile de Trente, Concile Vatican et Grande Théologie de Thomas d'Aquin. Puisque lorsqu'on fait de la théologie, il faut toujours regarder l'enseignement actuel de l'Église. Et Vatican II n'a pas ajouté quelque chose de particulier, sauf sur les sources de la foi, de la parole de Dieu, de la révélation, et de nouveau insister sur ce caractère surnaturel de la foi. Alors, essayons de bien saisir ce que représente cette vertu qui élève notre intelligence, qui la surnaturalise, qui la divinise et qui lui permet d'être à l'écoute de l'enseignement divin, qui lui permet de lire l'écriture dans une lumière surnaturelle. Parce que je peux lire l'écriture en philosophe. Et c'est intéressant de lire l'écriture en philosophe, parce que c'est un livre remarquable. Je crois que c'est le livre le plus intelligent qui soit, même au point de vue de ma pure intelligence. Mais lire l'écriture uniquement en philosophe, ce n'est regarder qu'un aspect de l'écriture. Parce que l'écriture, en réalité, est une parole divine révélée qui nous conduit au mystère de Dieu. Saint Thomas précisera, et c'est important de se le rappeler, que la vertu théologale de foi n'est pas au sens strict une vertu intellectuelle. Pourquoi ? Parce que justement, j'adhère à une parole qui n'est pas évidente pour mon intelligence humaine. chaos et qui ne repose pas sur mon expérience. Et c'est ça qui me caractérise proprement, ce mystère de la foi. Je suis suspendu à l'enseignement de Dieu. Mais ce n'est plus mon expérience qui est première. C'est un acte de volonté qui me pousse à adhérer, une adhésion à l'enseignement que Dieu me donne par sa parole inspirée. Pour tous les tenants de la langue latine, oui, c'est très important. C'est très ennuyeux. Mais il a eu des gestes humains qui pouvaient être français.
Elle peut très bien avoir des prix.
cette intelligence qui déraille. Quand Clavel s'est converti, il était conscient. J'aurais aimé avoir un regard tout à fait divin sur lui, voir qu'est-ce que ça fait comme grincement particulier quand on est conscient et croyant. C'est particulier. On verra ça demain. Ici, je veux simplement rappeler, parce que ça c'est très important, de rappeler que la vertu de foi, elle regarde directement la vérité première se révélant. C'est-à-dire Dieu qui me parle. C'est ça la raison, la ratio formalis fidei. Vous voyez, je peux regarder une réalité de diverses manières. Quand vous entrez dans une petite église romane, vous savez que vous avez des points de vue différents. Et aujourd'hui, on a un point de vue nouveau, c'est vision aérienne. Ce qui est une vision aérienne, c'est pas la vision que j'ai quand j'arrive auprès d'une église qui est plus grande que moi. Vision aérienne, je dépasse, je regarde en haut. Et puis, comme je m'élève loin, je peux tout voir. J'ai une vision de synthèse. Alors, je peux regarder la même réalité. Par exemple, l'homme. Je peux le regarder en tant que je regarde le corps de l'homme, science biologique. Je peux regarder l'homme d'un point de vue philosophique. Je peux regarder l'homme d'un point de vue théologique. C'est la même réalité. Regardez sous des raisons formelles différentes. La raison formelle précise exactement l'angle sous lequel je regarde telle réalité. L'objet connu est toujours le même, mais sous des points de vue différents. Je peux avoir ces regards différents, je le sais, j'ai conscience de ça. Si je suis bon en philosophie, en mathématiques, si j'ai un peu le sens de l'art, et si je suis chrétien, il y a des changements de vitesse. Hein. C'est pas la même chose, c'est pas le même regard. Il y a un regard différent. Il y a des visions différentes. Et c'est très important de bien comprendre ces visions différentes. Vous voyez, le regard de la foi, c'est la vision divine. C'est Dieu qui éclaire mon intelligence, puisque la vérité première se révélant. C'est donc une lumière divine. Mon intelligence est sous cette lumière divine, la raison. Première se révélant. Cette révélation se fait en se servant d'une parole humaine. Et Dieu s'en sert, et du fait même que Dieu s'en sert, ça devient une parole, la parole de Dieu. On dit parole de Dieu en lisant l'Écriture. En lisant l'Évangile, parole de Dieu. C'est la parole des hommes dont Dieu s'est servi. Donc, c'est cette parole humaine transformée par cette lumière divine. Et la foi implique cette adhésion. Par la parole au mystère. C'est-à-dire à la vérité première se révélant, qui est le mystère de Dieu. J'adhère à la parole de Dieu. Et cette adhésion à la parole de Dieu me fait entrer, contempler le mystère. C'est pour ça que la vision de foi, elle se fait dans l'obscurité. Pour mon intelligence, je ne vois rien. C'est dans l'obscurité quand je dis en Dieu, il y a ce mystère de fécondité. Dieu est Père. Il y a le Verbe de Dieu qui est le Fils bien-aimé. Et il y a l'Esprit Saint. Je n'ai aucune évidence que dans la simplicité absolue de Dieu, il y a trois personnes. Même ordinairement, selon toute l'expérience que j'ai des réalités, quelqu'un, une réalité absolument simple, n'implique pas trois personnes. Comprendre ça. Je peux simplement montrer que, étant donné que Dieu est infini, ce n'est pas impossible qu'en Dieu il y a cette fécondité et que cette fécondité ne détruit pas la simplicité de Dieu. C'est pas trois dieux, c'est un seul Dieu qui implique ces trois personnes. C'est pour ça que le chrétien est monothéiste. Et je dirais qu'il l'est plus que tous les autres monothéistes. Parce qu'il l'est en comprenant que ce monothéisme implique cette plénitude, cette fécondité. Les trois personnes divines dans la simplicité de Dieu. Le mystère du Christ. Vous voyez, la foi de Marie. Son petit enfant, il est Dieu. C'est le Verbe devenu chair. Et donc, dans le Christ, il y a une seule personne, celle du Verbe. Il y a la nature divine et la nature humaine. Je ne peux pas comprendre. J'y adhère. Donc, cette adhésion se fait dans l'obscurité. Et elle se fait sous la mouvance de cet amour, de cette pia affectio, de cet acte d'amour qui pousse mon intelligence, illuminée par la foi, d'adhérer à ce mystère qui me dépasse complètement. Et je porte en moi, dans ma foi, je porte ce mystère. Mon intelligence surnaturalisée par la foi a cette possibilité qui ne vient pas d'elle. Elle a cette possibilité d'adhérer directement à Dieu qui se révèle. D'adhérer au mystère du Christ qui est Dieu qui se donne à moi de cette manière si personnelle, si intime. Il a voulu s'adapter parfaitement à moi. Par la révélation, il s'adapte à mon langage. Il s'adapte à ma manière de connaître. Par l'incarnation, il s'adapte non seulement à ma manière de connaître, mais il s'adapte à ce que je suis, comme possédant la nature humaine. Il se donne à moi pour que je comprenne tout l'amour de Dieu pour la nature humaine. Il l'aime tellement qu'il l'introduit au plus intime de lui-même par le mystère de l'incarnation. Voyez, la foi que je porte en moi, que je veux porter en moi, la foi est un mystère qui transforme mon intelligence sans la détruire, qui permet à mon intelligence d'avoir ce dépassement, mais qui ne change pas la nature de mon intelligence. Mon intelligence continue d'être une intelligence humaine. Mon intelligence continue d'être une intelligence humaine qui mendie son bien à travers les sensations. quelque chose n'est pas plus intuitive grâce à ma foi.
Non.
Elle a cette possibilité d'aller beaucoup plus loin dans son adhésion. Elle a cette possibilité, par le fait même, aussi de pouvoir comparer ce qui m'est dit par la révélation, ce qui me dit par le point de vue de mes recherches intellectuelles. La foi ne supprime pas la recherche intellectuelle parce que justement, elle ne modifie pas la structure propre de mon intelligence et le conditionnement particulier de mon intelligence. Je connais, en me servant de mes sens, de mon imagination, et ma connaissance dépasse le point de vue des sens et de l'imagination. Elle peut adhérer à une réalité qui dépasse tout le monde visible. Elle peut adhérer à des principes qui sont au-delà du sensible, au-delà du monde physique. Mais mon intelligence ne peut jamais s'exercer complètement en dehors de mon corps. Elle a toujours besoin d'une image sensible. Mais elle la dépasse. Il y a comme une sorte de référence constante à l'aspect sensible. Et c'est ce qui explique comment une petite opération chirurgicale pourra faire qu'un pauvre homme ne pourra plus penser. Quand je suis arrivé à Fribourg en 1945, on était dans un grand émoi, parce qu'à l'hôpital cantonal, fribourgeois d'inspiration catholique, il y avait un chirurgien qui, sans avertir personne, opérait une petite opération, paraît-il, à travers le nez, très rapide. Il faisait ça en 10 minutes. Et le pauvre homme qui était opéré était réduit à être conduit. Il ne pouvait plus penser. Alors on a apporté le vieux grand-père qui était de mauvaise humeur, vous comprenez. Tous les jours il piquait sa crise de colère. Et on dit, écoutez, ce serait beaucoup plus agréable qu'il soit comme un enfant. Alors il opérait. On n'a pas le droit de faire ça. Supprimer la possibilité d'en être. Alors, à partir de là, vous voyez bien que l'intelligence n'est pas spirituelle, puisque par le corps je l'atteins. Ça, c'est la grande objection. Bien, il faut comprendre que l'âme est unie au corps substantiellement, c'est très vrai, et que l'exercice de mon intelligence implique toujours un lien avec l'imagination. Et saint Thomas va jusqu'à dire que même dans la vie surnaturelle, même dans la connaissance mystique la plus poussée, il y a toujours un lien avec l'imagination, dans l'exercice. Mais ce que je contemple, ce que je connais, est au-delà du sensible et de l'imaginaire. C'est très important de faire cette petite distinction, autrement on est cloué. Et la distinction entre l'exercice de mon intelligence et le côté de la spécification de mon intelligence. Ce qui détermine mon intelligence, c'est l'objet que je connais. Et l'exercice de mon intelligence, c'est parce que je veux connaître, je veux m'appliquer. Il faut bien comprendre cette parole de saint Augustin qui est très importante, parce que la foi, le mystère de la foi est un mystère qui est au-delà de mon point de vue psychologique. Vous ne saisissez pas par la psychologie le mystère de la foi. Et ça, il faut bien le comprendre. De sorte que lorsque on passe par des purifications de la foi, purification passive de la foi, par les dons d'intelligence, le don de sagesse, le don de science, les trois dons qui peuvent toucher la foi, deux qui touchent directement la foi et l'autre qui touche la foi par le point de vue de l'amour, ou bien le don de crainte qui touche la foi par le point de vue de l'espérance. Donc il y a quatre dons du Saint-Esprit qui viennent purifier la foi et l'exercice de la foi. Il peut se faire qu'à certains moments, on peut avoir l'impression, au plan psychologique, de ne plus avoir la foi. Je ne vois plus rien du tout. On dira purification de la foi. Et c'est vrai. On ne perd la foi que lorsqu'on veut la perdre. Nous a été donné par le baptême. Si on a gardé la grâce du baptême et qu'on a gardé sa foi tout le temps, elle demeure, c'est bien évident, et elle grandit tout le temps. Mais le mystère de la foi ne peut être perdu que si je fais une faute contre la foi volontairement. Je ne veux plus croire ce que l'Église m'enseigne. Je rejette ce que l'Église m'enseigne. Je ne veux plus croire l'enseignement du Christ. Saint Augustin va jusqu'à dire: celui qui veut croire, croit. Et ça, c'est très beau. Parce que c'est le seul point de vue psychologique par lequel j'atteins ce mystère de la foi. Je veux croire. Si quelqu'un vous dit, ça arrive de temps en temps, vous avez bien de la chance de croire. C'est vrai, on a bien de la chance. Je ne dis pas de la chance, moi je disais. C'est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Et c'est vrai, c'est une très grande grâce de croire. Et quelqu'un qui vous dit, vous avez bien de la chance, alors vous demandez-lui: est-ce que vous voulez croire? Quelqu'un qui a lu l'Évangile, qui connaît un tout petit peu ce que c'est que le mystère de Jésus, et si vous dit oui, je voudrais bien croire, vous dire: puisque vous voulez croire dans le mystère du Christ, vous croyez. C'est très important de se rappeler ça. Parce que notre psychologie humaine n'atteint pas le mystère de la foi. Mais j'ai une certitude de croire, même si je ne vois plus rien, je n'entends plus rien, je veux croire et j'ai cette certitude de croire à l'intérieur de la foi. Mais j'accepte de ne rien voir. C'est l'épreuve du mystère de la foi. Et c'est l'épreuve de la foi. C'est pour ça que la foi est une épreuve. On est dans un temps d'épreuve quand on vit de la foi. Et la foi est tout entière tournée vers la vision béatifique. Alors, précisons encore cette petite question que j'aime beaucoup dans saint Thomas. Saint Thomas pose la question de la nécessité de la foi. Et saint Thomas dit: la foi est nécessaire pour m'orienter vers la vision béatifique, pour comprendre que je suis fait pour voir un jour Dieu face à face. La foi me met sur cette orbite-là particulière. Je suis fait pour la vision béatifique. Je suis fait pour voir Dieu face à face. Je suis fait pour vivre le mystère même de Dieu, le mystère de la très sainte Trinité, le mystère du Fils, le mystère de l'Esprit, le mystère du Père. Je suis fait pour cela en tant que croyant. La foi n'est pas nécessaire pour la philosophie. n'est pas nécessaire pour les mathématiques. La foi n'est pas nécessaire pour connaître l'univers, le monde. La foi est nécessaire uniquement pour m'orienter vers la vision béatifique. Ça, c'est très important de comprendre ça. Parce que ça nous fait comprendre ce que la foi met en nous comme orientation fondamentale et première. Alors, évidemment, la foi peut très bien fortifier mon intelligence vers la recherche de la vérité. La foi peut fortifier mon intelligence pour aller le plus loin possible dans une recherche métaphysique. Mais ce n'est pas le but premier de la foi. Le but premier de la foi, c'est de m'orienter à la vision béatifique, qui est justement une finalité que seule la foi peut me donner. Voyez ce qu'est le réalisme de la foi. C'est adhérer à la réalité divine qui se révèle à moi. Donc au mystère de la très sainte Trinité qui se révèle à moi à travers les prophètes, à travers toute la révélation, et qui se révèle à moi en dernier lieu par le mystère de Jésus. C'est le réalisme radical de la foi. Il ne peut pas être plus réaliste que ça, cette connaissance. C'est la connaissance réaliste par excellence. Mais elle est réaliste par l'amour. C'est une connaissance amoureuse, la foi. Ce n'est pas une connaissance scientifique. Ce n'est pas une connaissance abstraite. C'est une connaissance amoureuse qui me permet d'adhérer au mystère de Dieu. Et ceci fait comprendre comment la foi peut être transformée dans son exercice propre par la charité et par les dons du Saint-Esprit. Si elle était une connaissance scientifique, l'amour serait toujours extrinsèque à la foi. Alors que connaissance amoureuse, l'amour du dedans me porte à adhérer au mystère de Dieu qui se révèle à moi comme un Dieu amour. Et donc c'est tout le réalisme du Dieu amour est révélé à moi à travers le mystère de la croix auquel j'adhère. Précisons encore que ma foi, elle est transmise par les prophètes, mais Jésus termine tous les prophètes, les achève. Et donc, par Jean-Baptiste, par Jésus, par Marie, puisque Marie est médiatrice de toute grâce, et donc elle m'aide à recevoir la plénitude de la foi. Et la foi me met en contact direct avec le mystère du Christ, de la croix et de la gloire, de la gloire et de la croix, et me permet d'adhérer au mystère même du Dieu rédempteur en Jésus crucifié et glorifié, et du Dieu créateur. Elle me donne ce contact direct, et elle le fait à sa hauteur divine, ce qui fait que je peux dire qu'il ne peut jamais y avoir de contradiction entre la vérité de la foi puisque c'est des niveaux différents d'intelligibilité. Prenez la comparaison parce que ça donne, ça fait très bien comprendre cela. Vous avez déjà eu cette vision très particulière quand on est en avion et qu'on regarde un autre avion qui vole pas tout à fait à la même hauteur. L'avion qui est à 10 000 mètres de hauteur, un autre ou deux.
Session d'introduction à la philosophie par le père Philippe Arimon, le 20 décembre 1992, premier cours.
Vous êtes bien reposé. Les troupes sont fraîches ce matin et qu'on peut avancer. Le père Martin me remplacera tout à l'heure pour la réponse des questions, puisque je suis obligé d'aller à Saumur pour des professions et des prises d'habits de nos sœurs apostoliques. Je serai rentré l'après-midi pour le cours. Nous avons donc essayé hier de voir le fondement toute philosophie réaliste, de voir que la philosophie commence par une philosophie pratique. C'est comme ça qu'Aristote l'appelle, la philosophie pratique. C'est très très important. Vous voyez, là je suis bien obligé de rectifier ce que la scolastique décadente a fait. En commençant par le point de vue spéculatif et en disant que le pratique était l'application du spéculatif au pratique. Et on comprend très bien cela, parce que à la place de repenser le problème philosophique pour lui-même, Suarez, puisque c'est Suarez qui est coupable de ça, Suarez a laïcisé la théologie de Thomas d'Aquin en disant Thomas d'Aquin se sert d'une philosophie pour sa théologie. Saisissons, reprenons cette philosophie à partir de sa théologie. Alors, à ce moment-là, on ne redécouvre plus l'ordre propre de la philosophie. Or, saint Thomas ne cesse de dire, le propre du sage, c'est d'ordonner. Oui, c'est très important de voir quels sont les problèmes premiers et les problèmes seconds. Si on fait le second avant le premier, on n'y comprend rien. Mais c'est comme quand vous avez un roman qui se donne dans deux livres et on fait une bonne blague de donner le tome 2 avant le tome 1. Alors si vous êtes très vieux, ça n'a pas d'importance. Vous devinez. Ayant terminé le second tome, vous reprenez le premier. C'est un peu comme ça la scolastique. Alors à la place de chercher les inductions des principes propres, on prend les définitions. Si on a le temps, on verra ça demain. Ou même peut-être ce soir. Parce que ça, c'est très important. Je souligne ça parce que je crois ça capital pour nous. Vous voyez, Suarez, dans ses méditations métaphysiques, montre bien qu'il est au point de départ des idéologies. Alors c'est triste que Thomas d'Aquin soit au point de départ des idéologies. Et c'est vrai, Descartes a eu comme professeur des Suarésiens. Faut pas l'oublier. La laïcisation que nous voyons maintenant a commencé par laïciser la théologie. Si on essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et là, l'astuce, au point de vue théologique, je peux dire, l'astuce du démon, c'est de corrompre notre intelligence pour corrompre notre cœur. Je me souviens, quand j'étais jeune et que j'étais en mathélem, un professeur de mathématiques qui était assez extraordinaire, qui nous faisait souvent rire. C'était un polytechnicien qui avait des marottes. Quand on était fatigué, on reprenait les marottes. Un bon système pour se reposer, comme ça le cours se passait, raconter ses petites histoires. Un beau jour, il est venu en disant « vous verrez, mes chers amis, vous verrez. La corruption du cœur, c'est pas drôle, mais la corruption de l'intelligence, c'est pire que tout. Et nous y allons, à pas de géant. » Ça m'avait beaucoup frappé. Quand on entend ça, quand on a 16 ans, 17 ans, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement, corruption de l'intelligence? Oui, corruption du cœur, on comprend bien. Notre affectivité, la corruption du cœur, la corruption d'intelligence. Et c'est vrai, ça. Il y a une espèce d'inversion qui fait que tous les problèmes ne sont plus mis en ordre et on n'y comprend rien. Alors, nous allons maintenant entrer dans l'autre aspect de la philosophie, la découverte de la connaissance spéculative. Puisque le point de départ de la philosophie, c'est une philosophie pratique, celle de l'homme. Les trois grandes opérations de l'homme, le point de vue du travail, le point de vue de l'amour d'amitié, le point de vue de la coopération. Il y a une autre dimension, la dimension de la connaissance pour elle-même. C'est ça qu'on appelle la connaissance spéculative. On pourrait dire, voyez, philosophie, pour prendre un langage blondélien, on dirait philosophie de l'action, philosophie de la pensée. Philosophie de l'action, c'est Fatscherer, l'activité artificielle, l'activité réaliste, l'efficacité, l'amour d'amitié, et puis la coopération pour édifier une communauté humaine, une communauté politique. Il y a là quelque chose de très important pour nous. En philosophie grecque, on voit que progressivement, on est arrivé à la connaissance spéculative. Et pour nous, en présence de l'hégélianisme, qui, vous savez très bien, on l'a dit, et c'est un peu vrai, Hegel, la philosophie hegélienne, joue pour nous, dans notre monde moderne, l'analogue de l'influence d'Aristote au Moyen-Âge. On est tous un peu hegéliens. Tous. Et on fait des sessions hegéliennes. C'est très bien porté, parce que c'est à l'ordre du jour. Je me souviens, quand j'étais à Fribourg, certains de mes chers confrères dominicains, qui actuellement sont dans le ciel, disait, mais mon père, pourquoi ne vous enfoncez-vous pas dans Hegel? C'est la grande philosophie du monde d'aujourd'hui. Je sais bien, mais je cherche la vérité et non pas la modernité. Le philosophe est l'ami de la sagesse. Et il faut bien comprendre comment progressivement, de Occam par Descartes, on est arrivé à Hegel. Et comprendre que l'hegelianisme est une confusion de l'intelligence et de la foi, ou de la foi et de l'intelligence. Et une confusion du pratique et du spéculatif. Hegel affirme « Je suis luthérien ». Or, vous savez bien que pour Luther, le péché originel a détruit notre capacité naturelle d'atteindre la vérité. Pour Luther, l'homme livré à lui-même ne peut plus atteindre la vérité. Donc, il n'y a plus de philosophie. Pour Luther, il n'y a plus de philosophie. La philosophie disparaît. Il n'y a plus que la foi. Et c'est pour ça que quand Hegel dit « Je suis luthérien », on a raison de dire que la philosophie de Hegel, c'est une théologie. Et que si on ne se place pas de cette manière-là, on ne comprend rien du tout à Hegel. C'est par la foi que l'intelligence va renaître, va être sauvée, et on va donc développer progressivement tout ce point de vue-là pour arriver au terme à dire que l'intelligence, par son développement, saisit tout ce que la foi nous dit. Alors il y a comme une sorte d'exaltation de la foi et une absorption de la foi par la raison. C'est très curieux. La foi est absolument nécessaire au point de départ. Elle réveille et ressuscite la raison, l'intelligence. Et au terme, la foi est absorbée par l'intelligence. Le vrai croyant, c'est l'hegelien. Tant qu'on n'est pas hegelien, on n'est pas un vrai croyant. Il faut aller jusqu'au bout. Et voyez, quelqu'un comme Karl Barth, qui est le théologien protestant par excellence, moderne, rencontrer des Barthiens, j'en ai rencontré plus d'une fois en Suisse, des gens qui ont la foi et qui sont impératifs dans leur foi. Il faut croire jusqu'au, tant que vous ne croyez pas, avec violence, il faut croire. Alors Karl Barth dit ceci: le plus grand théologien luthérien, c'est Luther. Le plus grand théologien luthérien, c'est Luther. C'est Hegel. Et c'est lui qui a été le plus loin dans la spéculation théologique sur la très sainte Trinité. Et Karl Barth ajoute, sauf peut-être Thomas d'Aquin. C'est intéressant, parce que pas beaucoup de théologiens catholiques diraient ça aujourd'hui. C'est intéressant d'entendre Karl Barth dire ça. Et vous voyez, pour M. Bourgeois qui enseigne la Hegel en Sorbonne, il considère que Karl Barth est un de ceux qui ont le mieux compris un théologien. C'est important de comprendre ça. Si on n'a pas la foi, si on ne saisit pas ce que c'est que la foi et la parole de Dieu, on ne peut pas entrer dans Hegel. Vous voyez, ça, il y a deux interprétations de Hegel, ça c'est très très net. Ceux qui sont purs philosophes et qui annexent Hegel, et ceux qui essaient de comprendre Hegel dans son intention et qui découvrent le théologien dans la pensée hegelienne, ce que je crois être l'intention profonde et propre de Hegel. Donc, on part de la foi pour réveiller l'intelligence, et l'intelligence, réveillée par la dialectique, absorbe la foi. De sorte qu'au terme, il n'y a plus que la dialectique. Et la dialectique est un mouvement de la raison tel qu'il n'y a plus que ce mouvement, la distinction entre spéculatif et pratique disparaît. Donc nous devons, puisque nous sommes tous un peu hegeliens, on est tous un peu en plongé dans, sans le savoir, c'est ça qui est merveilleux. Je me souviens qu'une fois je faisais l'observation à un théologien que je connais bien, je disais, mais vous êtes hegelien dans votre raisonnement. Elle dit, mais j'ai jamais lu Hegel. Je dis, c'est votre tort. Parce que n'ayant jamais lu Hegel, il a respiré Hegel. Et il n'a pas compris que c'était une théologie luthérienne. Et je crois que c'est très très important de comprendre comment Hegel entre dans le catholique, chez les théologiens catholiques. Vous voyez, Luther rentre chez les théologiens catholiques par Hegel. Alors, la dialectique hegelienne ne distingue plus spéculatif et pratique. Donc, nous devons, nous, au point de vue philosophique, nous poser le problème. Est-ce que cette distinction du pratique et du spéculatif est légitime? Ou est-ce qu'on doit tout simplement prendre comme méthode la méthode dialectique? Pour saisir la différence entre le point de vue spéculatif et le point de vue pratique, il faut regarder quelle est la finalité de la connaissance artistique, donc du travail. La finalité de la connaissance artistique, c'est l'œuvre. Je travaille pour réaliser l'œuvre. Quand vous travaillez et que l'œuvre ne vient pas, vous vous fatiguez. Vous dites, je me suis trompé de chemin. Ça n'aboutit pas. La connaissance artistique réclame l'œuvre. C'est bien évident. Je travaille pour réaliser une œuvre. Le travail intellectuel, comme le travail manuel, comme le travail technique et industriel, une œuvre. Une œuvre utile, une œuvre agréable, une œuvre qui peut être mixte entre les deux, ou une œuvre alimentaire, une usine aux petits pois. Et si je fais des petits pois empoisonnés, ça ne marchera pas. La connaissance affective
vous le connaissez pas. Moi,
tous eu cette réaction-là. Quand quelqu'un qu'on connaît très bien, profondément, et qui, pour une raison ou pour une autre, commence un tout petit peu à être angoissé, à plus pouvoir dormir, et qu'on le conduit chez un psychologue, il va vous faire le diagnostic. Puis, vous avez absolument l'impression que ça tombe à côté. Connaissance affective, connaissance artistique, on voit tout de suite la différence. Il y en a raison de réagir. Parce que la connaissance affective de l'ami me permet de le connaître beaucoup plus profondément qu'une connaissance soi-disant objective. Oui, c'est curieux. Hein, c'est pour ça que les mots objectif et subjectif, il faut faire grande attention. Parce que ça s'emploie différemment. Un ami qui vous confie ses secrets, vous le connaissez bien mieux que lorsque vous regardez uniquement sa manière d'agir de l'extérieur. Ne jugez pas selon les apparences. Ceci, c'est vrai pour l'homme. Un animal, vous avez le droit de le juger sur les apparences. Parce que quand il vous révèle ses secrets, ça ne va pas très loin. Hein? Une vache qui vous révèle ses secrets. Tandis que vous la regardez, vous voyez un peu, beaucoup mieux, qu'elle est malade, qu'elle est méchante, alors qu'elle était très douce avant. Vous voyez, ne jugez pas selon les apparences. L'homme, la vache, oui. Alors, vous pouvez avoir la vache qui rit comme ça, vous voyez, parce que vous la jugez selon les apparences. Tandis que l'homme, vous ne pouvez pas le juger selon les apparences. Vous devez le juger en essayant de découvrir ses intentions profondes, ses secrets. Et puis, il y a une connaissance. Elle existe en mathématiques. C'est la première connaissance spéculative. Et personne ne met en cause les mathématiques. Personne. On reconnaît tous que les mathématiques, c'est une connaissance très noble et très grande. La connaissance scientifique, elle est d'abord spéculative. Celui qui a découvert la désagrégation de l'atome a été très douloureusement atteint quand il a vu comment on s'en servait. L'application pratique. Alors que la découverte par elle-même est étonnante. Je me souviens, au moment de la découverte de la fameuse pilule, un professeur de la faculté de médecine, que je connais bien, qui est un ami, il disait, scientifiquement, c'est une découverte étonnante. C'est un Chinois qui l'a découvert. Découverte étonnante. Et il ajoutait, mais si on la met dans le commerce, ça va être terrible. Et ça risque d'atteindre très très profondément l'humanité. Il faudrait que l'humanité atteigne un niveau de sagesse pour que ça puisse être dans le commerce. Oui, connaissance spéculative, connaissance pratique. Je crois que c'est très très important de redécouvrir pour nous ce qu'est la connaissance spéculative, la recherche de la vérité pour elle-même. Après, on verra qu'est-ce que ça change dans notre vie. Mais il y a une recherche de la vérité pour elle-même. Et ça, c'est capital. Il y a une vérité d'ordre pratique. C'est bien évident, la vérité de l'artiste est autre que la vérité du savant. La vérité, autant qu'il y en a une, dans la logique, est autre que la vérité philosophique. Parce que la logique est un art pratique, comme tout art, donc appliqué. La logique implique une efficacité, que votre discours soit logique, que votre discours soit cohérent. Tandis que la connaissance, elle est orientée vers la contemplation. Toute connaissance spéculative est ordonnée vers la contemplation, à des niveaux différents. Alors, c'est cela que je voudrais regarder avec vous, cette découverte que le philosophe fait et doit faire après ces trois découvertes de la philosophie, de l'activité artistique, de l'éthique et de la communauté politique. Il reste pour le philosophe à connaître ce que la connaissance pratique ne peut pas atteindre. Puisque la connaissance pratique, elle se fait en faisant, en réalisant, et non pas en contemplant, en regardant, en analysant ce qui est le donné. Alors, il faut comprendre que le travail, je reprends exprès ce que nous avions vu hier, le travail humain, puisque le travail est toujours humain. Je ne peux pas dire qu'un bœuf travaille ou que la machine travaille. C'est métaphorique. Le travail se fait toujours à partir d'une matière. Une matière qu'on transforme. Vous n'allez pas travailler sur une matière que vous ne pouvez pas transformer. Vous voyez le dentiste. Ça, on a un travailleur là, merveilleux. Il travaille sur une matière. Et puis, quand la matière disparaît, quand la dent ne peut plus supporter le travail, il est obligé de s'arrêter et attendre la résurrection des dents. Le travail se fait toujours sur une matière antérieure au travail, et la matière capacité à être transformée. C'est la première définition de la matière. Tout ce qui peut être transformé, tout ce qui est transformable, est matière par rapport à l'activité artistique. Alors vous voyez, la matière comme telle échappe au travail. Elle est antérieure au travail. Alors qu'est-ce que c'est que cette matière? Un bon sculpteur travaille du granit. Et s'il est un très bon sculpteur, il aimera même d'aller au lieu même où on puisera le granit. Il voudra connaître la matière avant de la travailler. Et puis ça spontanément. Le charpentier, avant de travailler le bois, veut connaître ce bois. On ne travaille pas de la même façon le chêne, le peuplier ou le sapin. Ça travaille différemment. Et si vous ne connaissez pas la matière, vous ferez d'immenses bêtises dans votre travail. Il y a donc une connaissance antérieure à la praxis. Vous voyez, c'est ça qui est. Dans le marxisme, vous n'avez que la praxis. reste, Marx l'a dit, les philosophes, avant lui, ont connu l'univers sans le transformer. Eh bien moi, je vais le transformer. Et je considère que tout est matière à être transformé. Je ne connais que ce qui est le résultat de mon travail. C'est terrible ça. Ah, voyez la destruction d'amitié. Je ne connais mon ami que dans la mesure où je l'ai transformé. Pauvre ami. Et ça existe quelquefois. Il y a des époux qui épousent leur épouse pour la transformer. Pour être conforme à l'idée qu'ils se sont fait de l'épouse idéale. Mon grand-père racontait tout le temps qu'il la connaissait un soif pontifical qui n'était pas marié quand il était soif pontifical. Et on lui demandait, mais pourquoi vous ne mariez pas ? Je cherche Miss Idéale. Et un beau jour, on a appris qu'il se mariait. Tout le monde s'est précipité pour voir Miss Idéale. Et on a vu que Miss Idéale, c'était idéal pour lui, mais ce n'était pas idéal pour ses amis. Ça n'existe pas, vous voyez l'idée. Et alors, on aime en fonction de l'idée. Et on détruit, par le fait même, la réalité. L'ami, on l'aime tel qu'il est. C'est le propre du bien. Le bien, ce n'est pas ce qui est capable d'être transformé. Le bien, c'est ce qui me finalise. Vous voyez la différence. Ça, c'était capital de comprendre ça. L'exemple que je vous donnais hier à propos des psychanalystes. À la place de recevoir tout simplement quelqu'un qu'on ne connaît pas. On essaie de voir. Quand je vois quelqu'un, je ne cherche pas à dire, tiens, est-il hegelien ? Est-il marxiste ? Non, c'est un homme. C'est une personne qu'on reçoit et qu'on aime. Et qu'on essaie d'aimer. C'est une personne qu'on reçoit. Et quand on éduque quelqu'un, et on ne va pas tout de suite dire, ah vous êtes fait pour... Attention, regardez bien, connaissez. Il faut connaître la matière qu'on travaille pour elle-même. Et cette connaissance de la matière pour elle-même est antérieure au travail. Un bon travailleur fait ça spontanément. C'est même très intéressant de voir ça. De le constater, il faut le constater, puis soi-même comprendre qu'on fait ça aussi. Oui. Avant d'être l'ami de quelqu'un, on essaie un tout petit peu de le connaître quand même. Je ne veux pas tout de suite en disant, tu te rends compte, première personne, tu es mon ami, parce que aujourd'hui je t'ai dit, la première personne que je rencontrerai, ce serait mon ami. On arrive à des catastrophes comme ça. Vous savez, cette fameuse catastrophe qui est montrée dans l'écriture. Le général Jephté, devant les ennemis du peuple d'Israël, les Philistins, promet à Dieu que s'il a la victoire, la première personne qu'il rencontrera, il l'offrira à Dieu. Oui, avant de la connaître. Alors moi, je n'ose rien dire puisque c'est révélé à l'ancien. On essaie de comprendre. Première personne qu'il rencontre, c'est sa fille. Alors la fille disparaît devant l'idée. Vous voyez l'idée ? Le vœu qu'il a fait. La première personne que je rencontrerai. C'est un passage merveilleux hein, pour comprendre justement la différence entre la connaissance pratique et la connaissance spéculative. On aurait dit à Jephté, écoutez, attention, soyez prudent, quoi. Si c'est votre fille que vous allez rencontrer, vous allez l'offrir. Et Dieu peut sanctifier des imprudences quelquefois. Pas comme imprudence, mais en dépassant comme une sagesse. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas communes à comprendre. C'est la première fois qu'on voit l'application d'un vœu. Il a fait un vœu à Dieu. Mais normalement, le vœu, c'est nous-mêmes. On s'offre à Dieu, on n'offre pas son voisin. C'est trop facile. Ça, c'est le rôle des supérieurs qui offrent leurs individus et peu attendent. Ça, c'est de mauvais supérieurs. Parce que le supérieur doit être à la tête, au contraire. comprenez bien qu'il y a une connaissance spéculative radicale sur la matière. Connaître ce que c'est que la matière, non plus seulement en tant que capable d'être transformé. Le psychanalyste déformé ne regarde l'homme ou la femme qu'en tant qu'elle est capable d'être transformée par sa psychanalyse. Un bon client, il aurait besoin d'un petit traitement. On est très vite, très vite, hein, déformé quand on est dans la pure efficacité. Quelqu'un qui ne regarde que l'efficacité, que le rendement, ne regarde plus que les hommes en fonction du rendement. Et donc, il ne voit plus ce que c'est que l'homme. Chacun d'entre nous, nous sommes uniques. C'est toujours ce qu'il faut se dire. C'est le seul refuge qu'on a, hein, quand on vous dit que vous êtes un imbécile. Mais non, pas du tout, je suis. C'est vous qui dites que je suis un imbécile. Mais non, je suis, j'existe. Regardez-moi d'abord en tant que j'existe. Après, vous mettrez vos catégories. Hein. Mais vous dites que je suis un imbécile parce que je ne suis pas tout à fait comme vous. Vous avez votre idée. Je suis. Respectez-moi, j'existe. Et vous respectez celui qui existe. Connaissance spéculative. La matière, à la place de la regarder, capable d'être transformée. Transformée par l'idée qu'on a. Par l'idée que le travailleur, l'homme, qui travaille, il a une idée. Et alors il regarde la matière en fonction de son idée. Mais il y a une autre manière de la regarder. C'est la regarder pour elle-même. Vous voyez, connaissance spéculative, on regarde les réalités pour elle-même. C'est le respect qu'on a à l'égard de l'autre. C'est pour ça que c'est si important. Et la disparition de la connaissance spéculative avec la dialectique, avec l'idéologie, fait qu'il n'y a plus de respect. On va vers une communauté qui sera uniquement une communauté en fonction de l'idée de celui qui gouverne. C'est ce qu'on appelle une tyrannie. Il n'y a plus le respect de l'autre. Et c'est la chose élémentaire de la connaissance. La connaissance nous apprend à respecter l'autre. Et c'est ça. C'est, voyez, là, il y a toute une dimension qui me semble capitale aujourd'hui, que le philosophe doit tout le temps rappeler. Le respect de l'autre. L'autre, on le connaît d'abord pour lui-même. Donc, cette connaissance de la matière va être ce qu'on appelle ordinairement la philosophie de la nature. Parce que la matière, c'est telle matière. Or, telle matière, elle a telle nature. Vous voyez, redécouvrir aujourd'hui la connaissance de la philosophie de la nature à partir du travail humain. Ce qui me semble très important. Vous voyez, aujourd'hui, les philosophes sont intimidés par la science. C'est vrai, les philosophes sont intimidés par la science. Alors ils disent, avec la physique moderne, plus besoin de regarder la philosophie de la nature. C'est une vieille chose d'Aristote, ça, complètement périmée. Et dans la mesure où saint Thomas se sert de la physique d'Aristote, c'est complètement périmé. Attention. La science oblige le philosophe d'être plus philosophe. C'est-à-dire de mieux comprendre ce qu'est la connaissance philosophique par rapport aux connaissances mathématiques et scientifiques. Les connaissances mathématiques et philosophiques mettent entre parenthèses l'homme. Je regarde l'univers dans une lumière mathématique. Et j'expérimente l'univers dans une lumière mathématique. et je ne regarde plus l'homme. L'homme est absent. Et ceci pour être objectif. Ah, attention. Est-ce qu'il n'y a pas une autre connaissance de l'univers par rapport à l'homme? Oui, le propre de la connaissance philosophique, c'est de ne jamais quitter l'homme. Je vous ai dit, le philosophe essaie de comprendre l'homme. Je dois connaître cet univers parce que l'homme travaille. Et donc il se trouve devant la matière. Et cette matière, c'est l'univers. C'est sa petite planète. Il connaît la planète et l'univers parce qu'il est capable de la transformer. Mais il la connaît aussi en tant qu'elle existe avant qu'il la transforme. Et il doit la respecter. Je dois respecter la matière. Je ne peux pas faire n'importe quoi avec n'importe quoi. Oui, et c'est là où se trouve le problème que je vous ai déjà dit. Dans quelle mesure on coopère et dans quelle mesure on exploite. Pour comprendre la différence de la coopération et de l'exploitation, il faut connaître la matière au plan philosophique. C'est-à-dire comprendre ce qu'est la nature. Il y a là quelque chose de très important. Parce que la science, livrée à elle-même, va le plus loin possible et ne regarde que les résultats. Et ne regarde plus la finalité par rapport à l'homme. Donc, première connaissance spéculative pour elle-même, la connaissance de la nature. Et ceci fait comprendre, et je crois ça aussi très important, ceci nous fait comprendre que la connaissance de la nature se sert constamment de la connaissance artistique. Au fond, j'ai besoin tout le temps de me référer à l'art. Dans Valérie, il y a ce petit passage extraordinaire sur Monsieur Test. Il se trouve au bord de la mer. Il voit une pierre laminée. Il se pose la question, est-ce qu'elle est taillée par l'homme ou est-ce que c'est la nature? Je me souviens que la première fois que j'avais été dans le désert de Judée, j'avais trouvé dans le désert, en plus ou moins enfoui, un merveilleux silex, une pierre étonnante, taillée exactement comme une hache. Ouais. Avec un trou. J'ai ramassé, puis j'ai conduit à un père de Saint-Étienne, l'école biblique, un archéologue. Et je lui dis, est-ce que c'est une pierre taillée? Ou bien, est-ce que c'est un vulgaire caillou? C'est une bonne question, hein? Et là, pas su vous répondre. Il s'est dit, si c'est une pierre taillée, c'est très très intéressant. Parce qu'elle est sûrement très très ancienne. C'est presque un objet de musée. C'est vrai. Si c'est un vulgaire caillou, emmenez-le dans votre poche. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit que c'était un caillou pour la douane. Vous comprenez bien. Si c'est une pierre taillée, on le met dans un musée. C'est un caillou. Oui, vous pouvez le servir comme il y a du vent pour empêcher les feuilles de papier de partir. C'est un gros caillou, un beau caillou, très beau caillou, bien laminé. Voilà la question du philosophe. Qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que l'œuvre artistique? bascule dans une ville, la Babylone. Parce que Nietzsche était très croyant quand il avait 18 ans. Le jeune Nietzsche a écrit des psaumes étonnants, de vrais psaumes, comme prière à Dieu. Et certains disent que Nietzsche restait toujours un croyant, ce qui est très possible. Il y avait le Nietzsche philosophe et le Nietzsche croyant. Et même certains disent que c'est un mystique. C'est possible. On verra ça au ciel. Nietzsche fait cette constatation. Quand je suis dans la ville, je dis l'homme. Quand je suis au désert, quand je regarde la mer, je dis Dieu. Ben, c'est étonnant ça. Et c'est beau ça. Alors, la matière, je la connais par le travail, je la connais par l'expérience aussi. Ce qui émue toutes les réalités que vous, antérieures au travail humain. Mais évidemment, c'est pas en se baladant dans le qu'on va trouver la nature. Surtout en Bourgogne, c'est très travaillé. Très travaillé. On est dans un monde terriblement civilisé. Alors, entre des cultures différentes en creusant. Mais dès que vous vous élevez, vous aimez trouver la nature, la montagne, l'océan, la côte sauvage. On trouve la nature, l'expérience de ça, la réalité de ce qui est mu, de ce qui change tout le temps. Rien n'est stable dans la matière. Rien n'est stable.